BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passé de 2 minutes, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui démarre et on file tout de suite au cœur de l'actualité. Écho avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info écho.
Et à la une, c'est le tout nouveau produit phare d'Apple baptisé Vision Pro. C'est un casque de réalité mixte qui se contrôle avec les yeux, les mains et la voix. Il a été présenté hier lors de la conférence des développeurs au siège d'Apple à Cupertino en Californie. Il permet à l'utilisateur de superposer des éléments virtuels sur le monde réel avec différents degrés d'immersion afin de travailler, communiquer, jouer à des jeux vidéo ou encore regarder un film. Il sera vendu 3 500 $ en début d'année prochaine, d'abord aux États-Unis. 20 millions de dollars, c'est le montant de l'amende que doit payer Microsoft. C'est pour mettre fin à des poursuites de l'Agence américaine de protection des consommateurs. Elle reproche à Microsoft d'avoir collecté les données personnelles de mineurs via la plateforme de jeux Xbox entre 2015 et 2020 sans le consentement des parents. La bataille pour la présidence d'Atos est lancée. À 3 semaines de l'Assemblée Générale, son actionnaire, le fonds Sycomore, demande le départ de Bertrand Meunier. Selon nos informations, il propose la nomination de Léo Apothécaire pour le remplacer. Mais l'ancien patron d'HP et de SAP n'est pas le bienvenu, ayant été remercié à chaque fois un an tout juste après son arrivée à la tête de ces deux entreprises. Écoutez Cyril Charlot, associé fondateur de Sycomore Asset Management. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Les prérogatives des actionnaires, c'est de décider de la composition du conseil. Ce conseil, force est de constater qu'il ne fait pas son travail, il ne prend pas ses responsabilités. Le bilan de l'entreprise depuis 3 ans est juste catastrophique. Nous estimons que la situation d'Atos est d'une telle gravité qu'il faut absolument faire quelque chose. Nous aurons pu simplement désinvestir, c'est-à-dire vendre nos titres, et passer à autre chose. Mais nous pensons qu'Atos peut se redresser.
AXA remanie sa direction. Guillaume Borry est nommé directeur général d'AXA France. Il en était jusqu'à présent le numéro 2. Il remplace Patrick Cohen qui devient lui le directeur général marché Europe et Santé. Le groupe va présenter son nouveau plan stratégique en début d'année prochaine. C'est aujourd'hui la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites dont les premiers décrets d'application ont été publiés dimanche au journal officiel. L'impact est très limité dans les transports. Le trafic est normal à la RATP, très peu perturbé à la SNCF. Des vols ont été annulés par précaution dans les principaux aéroports, 30% à Orly par exemple. Le gouvernement vise une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre. Et puis, un mot de la guerre en Ukraine. Une frappe a détruit ce matin le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé près de Kherson, une région occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine. Il contient environ 18 millions de mètres cubes d'eau. Et alors que l'Ukraine alerte sur un danger de catastrophe nucléaire qui augmente rapidement. L'AIEA estime de son côté qu'il n'y a pas de danger nucléaire immédiat.
Merci beaucoup Stéphanie Collo qui nous accompagne chaque heure pour lire l'actualité économique et nous, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et l'on rejoint Sarah Thirion qui nous attend chez TPI Cap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, difficile de dessiner une vraie tendance, non, ce matin?
On patine. Toujours autant, la Banque Centrale Australienne qui avait quelquefois cette année servi de baromètre ou d'indicateur aux autres banquiers centraux n'a pas fait la pause que les marchés espéraient. Donc elle a remonté son taux directeur d'un quart de point ce matin. Ce qui montre bien peut-être que le souci reste toujours effectivement cette incapacité à faire décélérer assez vite cette inflation core, un sujet qui se profile évidemment ou qui perdure évidemment tant en Europe qu'aux États-Unis avec des réunions qui sont, enfin des décisions qui sont prévues les 14 et 15 juin. Malheureusement, en plus de ça, évidemment, on a la quasi-récession du secteur manufacturier au niveau mondial qui se confirme. On l'avait vu au travers des PMI manufacturiers. On en a encore une autre illustration avec les commandes à l'industrie allemande qui ont reflué en avril de quasiment 10%. Hier, on a eu cette ISM des services aux États-Unis qui est ressortie en décélération. Donc, on n'est pas encore en seuil de contraction, mais il est ressorti tout juste à l'équilibre à 50,3 en mai. qui est témoignant en fait d'une baisse des nouvelles commandes et une mesure des prix des intrants qui était à un plus bas de 3 ans. Alors d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre de tempérer l'inflation. Et donc peut-être effectivement d'abonder ou d'aider la Fed dans cette lutte contre le contexte inflationniste. En revanche, ça témoigne d'un ralentissement de l'économie américaine et pour mémoire, les services représentent les 2/3 du PIB. Donc on a cet environnement qui reste quand même assez compliqué pour prendre des décisions. S'ajoute évidemment à tout cela les incertitudes qu'on peut avoir sur la teneur des publications à venir au mois de juillet sur les résultats de S1, les perturbations de l'intelligence artificielle dans notre monde, voilà.
Voilà, comme vous dites, pour la tendance générale. Après, un petit focus sur Téléperf.
Téléperf, bon, malheureusement, qui continue d'être ballotté au gré de ces incertitudes, justement, qu'on a autour de l'intelligence artificielle. Ce matin, la société était dans le haut du CAC 40. Ce n'est malheureusement plus le cas. Mais le groupe va peut-être permettre d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur le sujet de l'intelligence artificielle, puisqu'il a programmé un rendez-vous digital à la fin du mois de juin pour revenir effectivement sur son point de vue s'agissant de l'intelligence artificielle et de l'état actuel de son utilisation dans le groupe. Donc on avait envie de rappeler que cette technologie existe déjà dans les solutions du groupe depuis 2021 et c'est d'ailleurs grâce à ces solutions que le groupe peut répondre à des volumes qui sont juste colossaux dans un monde digitalisé. Les volumes automatisés ont représenté 6% du total en 2022 et devraient tendre, selon le groupe, à peut-être 20-30% d'ici 3 ans, permettant, en fait, générant des gains de productivité significatifs puisque l'intelligence artificielle va permettre une réduction des coûts de formation de 50%, réduit de 40% la durée des interactions et, plus important encore, réduit de 90% visiblement les erreurs. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'humain va être débarqué, puisque selon cette projection, ça représentera à minima encore 70% des interactions. Et l'humain va rester le garde-fou de la sécurité des datas et surtout, effectivement, va permettre de proposer des architectures intelligentes sur mesure aux clients de téléperformance pour intégrer cette intelligence artificielle de façon à ce qu'elle permette d'améliorer la productivité, la qualité du service, la satisfaction des clients, de ses clients et peut-être de proposer de nouveaux possibles. Donc clairement, il faut imaginer qu'il n'y ait pas que des côtés négatifs dans l'intégration effectivement de la proposition intelligence artificielle et que ça puisse maximiser la productivité, préserver peut-être D'accord. même la rentabilité et apporter des solutions de plus en plus productives.
Merci beaucoup Sarah Merci. Pour ce regard sur la tendance et sur téléperformance ce matin depuis Tipeee iCap, le CAC -0,2.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Mathieu Bailly pour Octo AM. Bonjour Mathieu.
Bonjour Cédric.
Et Cyril Collet pour CPRAM. Bonjour Cyril.
Bonjour à vous deux.
Merci à tous les deux d'être présents. Deux ouf, on va dire, ces derniers temps. Ouf, la note française n'a pas été dégradée. Et ouf, le psychodrame du plafond de la dette a été évité. Ça vous va comme entame ?
C'est pas exactement de la même importance, je pense. Même si, tant que français, la dégradation de la note aurait été... effectivement, une mauvaise nouvelle. Non, je pense qu'effectivement, le plafond de la dette, c'est une sorte de... C'est pas une sorte de comédie, mais c'est une sorte de théâtre où chacun se positionne pour les 6 prochains mois et potentiellement les prochaines élections. C'est vrai que ce qui était important, c'était de voir quel impact ça allait avoir sur les dépenses publiques, pour aux États-Unis, bien sûr, notamment avec toute la partie IRA, donc tout ce qui est refinancement contre l'inflation, les dépenses pour le climat et ainsi de suite. A priori, ça perturbe pas trop tout ça, qui a l'air d'être préservé en termes de budget. Donc, je pense que ça, c'est bien. Oui, devant nous, maintenant, c'est comme d'habitude, la Fed et la Fed. Hein. La prochaine réunion de la Fed va décider de beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qui a été dit dans le journal, je pense que on a quand même l'impression que l'économie américaine est sur un point d'inflexion. Est-ce que ça va suffire à faire dire à la Fed qu'il faut arrêter de monter les taux ? C'est la grande question.
Vous regardez ça comment, ces deux ouf ? Alors, sans commune mesure, hein, le plafond de la dette, s'il n'avait pas été résolu, c'était Armageddon sur les marchés, alors que la dégradation de la France, on a bien vu quand on a perdu notre UPLEA, ça n'a pas eu d'effet réel.
Oui, sur le plafond de la dette, ce qui était important, c'était le délai aussi, parce que on voit tous qu'on est dans une situation déjà un peu incertaine, donc rajouter des délais un peu longs, comme ça avait pu être le cas il y a 3-4 ans, et que ça dure jusqu'à octobre, novembre, etc., c'est ça qui fait que ça pénalise en général les marchés. Là, ça a été résolu plutôt rapidement. Concernant la partie française, bon, depuis que l'Italie et la Grèce et le Portugal sont entre le triple B et le double B et que la BCE a dit que de toute façon elle maintiendrait les taux de ces pays-là sur des niveaux bon an mal an le plus proche possible de ceux de l'Allemagne, le fait que ça passe de double A plus à A ou 2A, enfin ça ne joue plus du tout depuis longtemps. À une époque, le triple A était voilà, comme vous disiez, était le garant soi-disant du système européen. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas.
Et sur le plafond américain, pareil, psychorame évité.
Oui, comme a été dit tout à l'heure, c'est en général plus politique qu'économique ou financier, parce que.
C'est quand même la première fois qu'on avait vu un ancien président et qui plus est candidat potentiel souhaiter le défaut, enfin pousser ses voilà. Généralement, tout le monde jouait à je te tiens, tu me tiens, mais il n'y en avait aucun qui souhaitait le défaut.
Non, alors après, il y avait eu des cas plus critique, hein. Il y avait eu quand même des fonctionnaires non payés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il y avait eu des fournisseurs non payés. Là, on en était quand même assez loin. Oui. Et ça a été réglé finalement en quelques. Enfin, c'est moins d'un mois, hein. Donc c'est relativement rapide.
Le vrai impact aurait pu être effectivement sur le marché de l'immobilier, parce que c'est au gouverneur et dans certains cas à l'État de valider tout un tas de mises en cause, et notamment les permis de construire. Donc ça aurait pu aider, entre guillemets, un peu le ralentissement en cours, mais en dehors de ça, oui, il n'y a pas vraiment.
Bon, vous nous avez dit, il y a la Fed et la Fed. On pourrait rajouter quand même un peu la BCE.
Oui, si.
Est-ce que, parce qu'on en a certains qui commencent à dire quid d'une erreur de politique monétaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête de se dire, tiens, si la Fed en rajoute une, si la BCE en rajoute deux, est-ce qu'on peut finir par être monté trop et est-ce qu'en fait on peut, alors qu'on l'a évité jusqu'à présent, tomber dans une erreur de politique monétaire, avoir celle de trop?
Erreur dans le sens d'aller trop loin.
Oui.
C'est un peu tôt pour dire qu'ils sont allés trop loin. Non, je pense que si on doit parler des marchés actions ensuite, je pense que l'erreur, à mon avis, pour beaucoup d'investisseurs, aura été de commencer l'année très prudent parce qu'on nous avait annoncé une année pire, horrible. C'est pas du tout le cas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est plus dans un erreur d'euphorie en se disant. Beaucoup d'investisseurs pensent que la Fed va baisser ses taux avant la fin de l'année. Ce qui nous paraît complètement improbable, en tout cas avec tout ce qu'on vient d'entendre et ce qu'ils veulent mettre en place. Donc non, aller trop loin, je pense pas. Je pense qu'ils sont effectivement sur la bonne route. Ça va pas forcément changer le monde s'ils font plus 25 BP en plus au mois de juin. Ça devrait effectivement ralentir un peu les ardeurs des acheteurs actions qui sont revenus en retard, mais qui sont revenus, parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas exposés au marché actions en début d'année, qui maintenant sont exposés. Donc eux, ils sont pas rentrés. Ils sont rentrés récemment, ils ont loupé une bonne partie de la perf. Donc pour moi, c'est plus ça l'enjeu. C'est effectivement les gens qui sont rentrés depuis fin avril, début mai, donc qui ont laissé passer la crise bancaire pour revenir sur les marchés. Est-ce qu'ils vont supporter 25 BP de plus à mi-juin si jamais la Fed monte encore ses taux? Est-ce que c'est ça qui va pas finalement provoquer une petite peur en disant finalement je suis rentré au plus haut, faut que je ressorte? Mais non, je pense que la Fed elle fait vraiment très bien le job jusqu'à aujourd'hui et je trouve que ça c'est bien.
Mathieu?
Oui, ce qu'on appellerait erreur de politique monétaire, c'est de dire on monte les taux alors qu'il faudrait les baisser assez fort. Là, si on est à la marge sur 25 BP de plus ou de moins, quand on a déjà fait un chemin de quasiment 4, ça joue assez peu. L'erreur, elle a déjà été faite plus ou moins au début, peut-être par le délai de dire l'inflation va pas rester, donc on attend un peu. Et puis, de toute façon, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'erreur? C'est qu'ils sont en erreur permanente sur leurs prévisions. En tout cas, concernant la BCE, ça fait à peu près un an et demi qu'ils nous disent le trimestre prochain, l'inflation va décélérer au niveau qu'on vous avait dit trois trimestres avant. Et à chaque fois, ça ne fait que monter. Alors ça commence à refluer un petit peu, mais à cause de ces erreurs-là ou grâce à ces erreurs-là, ils sont extrêmement précautionneux, ce qui est le cas aussi d'ailleurs de beaucoup d'investisseurs, et donc font vraiment des mesures qui sont extrêmement progressives, qui fait que bon bah une erreur serait vraiment à la marge, et effectivement 20 BP, ils pourraient toujours le refaire dans l'autre sens 3 mois après ou voire un peu avant, et ça jouerait pas significativement.
Juste un petit mot justement de ces marchés obligataires, et c'est particulièrement chez vous que ça c'est le plus concernant, comme on dit en bon français. Goldman Sachs, après avoir enterré Tina, nous propose Tara, Zerar Reasonable Alternatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire 100 dans une gestion équilibrée une poche parce que les rendements sont redevenus attractifs.
Oui, aujourd'hui, à peu près tous les rendements... De toute façon, quand la BCE qui fixe le taux sans augmentation de risque complémentaire, on a beaucoup d'investisseurs qui nous disent « Oui, mais si telle obligation qui faisait du 0 auparavant fait du 4 aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus risqué. » Ouais. Pas forcément, c'est juste que la Banque centrale, pour des raisons qui sont économiques et politiques, a décidé d'augmenter la rémunération de tout. Donc évidemment, quand on passe de 0 à 4... 4, c'est quand même un niveau absolu qui correspond pour beaucoup de gens à ce qui était le rendement. Alors, on peut ajouter ou retirer 1% ou dans un sens ou l'autre. Mais dans ce cas-là, à peu près tout peut être concernant, pour reprendre le mot. Les seuls actifs qui peuvent être un peu en retard et où il faudra peut-être, et on commence à voir des mouvements, c'est les actifs qui sont en général un peu en retard. Le marché a commencé par les marchés des taux, puisque c'est la BCE qui a décidé de bouger ses taux. Et donc, le plus on est loin de ça, le moins on est liquide, le plus on a du retard. Et les actifs les plus en retard peuvent être, par exemple, l'immobilier. On voit encore des niveaux de rentabilité, et d'autant plus qu'en ce moment, on a encore en Allemagne ou en Europe, ou en France, par exemple, les caps des loyers dans certaines villes. Donc, pour justement... une politique sociale qui fait que ces rendements-là, par rapport au coût d'emprunt en face, peuvent être un petit peu en retard. Pour le reste, effectivement, entre que ce soit les actions, les obligations, les comptes à terme, les fonds monétaires, il y a énormément de choses, notamment pour un trésorier qui était un peu coincé avec sa trésorerie il y a un an et demi, voire même on lui pénalisait parfois, et qui aujourd'hui... Peut l'investir. On est passé du temps du financement au temps de l'investissement.
La fin de Tina et l'arrivée de Tara, pour vous, sur le monde action, c'est le plaisir de voir quelques passagers clandestins quitter le navire et...
Oui, c'est l'idée. Je pense que l'an dernier, il y a eu une sanction sur les marchés actions qui était tout à fait naturelle avec la hausse des taux qui était précisée, évidemment. Donc, au niveau de valorisation, c'est ajusté. Donc, effectivement, aujourd'hui, normalement, les gens qui sont sur les marchés actions, s'ils ont en alternatif sur des échéances de 7 ou 10 ans, 3 ou 4% de taux, normalement, ils sont là parce qu'ils veulent prendre du risque action. Donc, ils n'en ont pas beaucoup pris cette année parce qu'ils ont fait du taux, même si... Enfin, je suis pas gérant d'eau, mais c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Hein. Quand on voit les mouvements du 10 ans américain, si on a un petit peu de risque taux sur le long, sur le marché américain depuis le début de l'année, ça a beaucoup bougé. Donc c'est l'an dernier, l'horreur des marchés financiers, c'est que le long action, comme le long obligataire, avait perdu beaucoup d'argent. C'est-à-dire la gestion diversifiée était très dure. Il n'y avait aucun coin où faire de la performance. Et donc c'est une année traumatisante. Cette année, c'est entre guillemets plus simple parce qu'il y a effectivement possibilité de faire du rendement sur les taux. Sur les actions, normalement, ça doit remettre un petit peu aussi en phase de la hiérarchie des risques. C'est-à-dire qu'en général, quand les taux montent, aux États-Unis, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas aller dans les marchés émergents parce que ça ne sert à rien de prendre beaucoup de risques. On vous offre du rendement un peu moins risqué. L'adage pour l'instant est respecté. On avait beaucoup d'espoir sur les marchés émergents actions. Jusqu'à fin janvier, c'était formidable. Et depuis, il ne se passe plus rien, voire ça a bien régressé. La seule originalité de l'année sur les marchés actions, c'est la performance du marché japonais, qui est vraiment très très loin devant tout le monde et qui bénéficie de deux choses. Premièrement, la dévaluation du yen contre dollar. Ça avait été très fort l'an dernier, mais ça reste aujourd'hui avec un dollar yen qui doit être autour de 130 quelque chose, très très attractif pour les entreprises japonaises qui exportent. Et en plus, le redémarrage de la demande interne. Donc vous avez un marché action japonais, alors en devise locale, qui doit être entre 25 et 30 depuis le début de l'année, quand aux États-Unis on est à 11 et dans la zone euro on est à 11. C'est ça, je pense que c'est le vrai élément. Cette année, c'est la vraie poche de rendement un peu extrême, sous réserve de cette couverture en change, hein, parce que là, sinon c'est compliqué. Mais donc, oui, ça offre des opportunités qui n'étaient pas forcément là avant. Et il y a plein de gens qui redécouvrent le marché japonais. Les actions, comme toujours, mais surtout le marché japonais cette année.
Du coup, comment on gère un petit peu aujourd'hui ? On s'intéresse quoi ? Aux souverains, aux corporates ? On reste sur de l'investment grade ? Il faut descendre un peu ? Enfin, c'est quoi ? C'est les subordonnés bancaires qui déterminent le niveau d'exposition ? Comment est-ce qu'on cisèle un petit peu une part obligataire ?
Alors, ce qu'on avait vu en début d'année et qu'on continue même un peu encore à voir aujourd'hui, c'est beaucoup d'investisseurs qui se disent les taux ont monté et l'année dernière j'ai passé une année horrible, donc je vais fixer un taux pour le plus longtemps possible et faire des entreprises de qualité. Et donc, du coup, on était quand même relativement, dans ces cas-là, exposés sur les taux. Et là, il y a une grande volatilité, puisque finalement, l'incertitude, elle est sur les taux. Tout à l'heure, on parlait des banques centrales. On est tous là à se dire, est-ce qu'ils vont monter, pas monter, à quel horizon. Et donc, nous, on a plutôt été dans l'autre sens, en se disant, finalement, les entreprises, et c'est ce qu'on voit dans les publications, elles sont à peu près aussi incertaines que nous. Elles sont aussi prudentes que nous, investisseurs, parce qu'elles ont... On n'a jamais vu autant de discours sur les incertitudes macroéconomiques dans les bilans des entreprises ou dans leurs publications. Et donc, elles renforcent leur bilan, elles accumulent du cash, elles font peu d'investissements et elles sont plutôt fiables. Et donc, nous, on s'est dit, on va plutôt prendre des entreprises qui ont un peu plus de primes de crédit, un peu plus de risque action, si on peut dire, dans notre partie obligataire, mais sur des maturités relativement courtes, ce qui permet d'avoir un portage plutôt entre 5 et 7 en fonction de ce qu'on prend comme risque, sur des maturités, on va dire, entre 3 et 4 ans, et donc avec une sensibilité au taux modérée, et puis un portage qui permet de s'exposer après, si on veut, sur les actions pour une partie, et puis de faire le fameux portefeuille diversifié plus traditionnel qu'on avait, qui avait disparu les années précédentes.
Et vous avez l'impression qu'il faut ajuster son portefeuille, parce qu'on va prendre quelqu'un de lambda, un épargnant qui est sur le CAC, qui a touché ses dividendes et qui donc, grosso modo, gagne quasiment quoi 14% depuis le début de l'année. Il se dit, face à tous ces doutes qu'on met en avant, il doit se dire quoi ? Tant pis, je reste full investi, je reste sur les mêmes typologies de valeurs, ou au contraire, il faut que je voie parce que les mid-cap sont en retard, parce que... Comment est-ce que vous bougez un peu, si vous le faites, en tout cas chez CPR ?
Alors, on le fait, mais plutôt pour des investisseurs institutionnels, donc dans un cadre un petit peu différent, des gens
qui... Oui, mais ça donne une idée de la température.
Tout à fait, qui ont des horizons d'investissement beaucoup
plus... Faisons profiter aux petits porteurs,
bien sûr.
Les lumières des grands investisseurs.
Alors, le petit porteur, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a, jusque-là, il a fait une belle année. Il va toucher des dividendes conséquents. Celui qui est sur le CAC 40, il est dans un monde assez restreint. Hein. Sanofi, LVMH, pour ne pas les citer. Donc, Sanofi, c'est quand même une valeur défensive. Donc, il n'y a pas de vrai sujet, plutôt bien placé. LVMH, gros retour positif en 2023, tout le secteur du luxe, avec la réouverture de la Chine. Ce n'est pas donné. Hein. C'est un peu cher comme action dans les deux cas, en valorisation. Mais c'est vrai que ça a des entreprises qui ont une belle visibilité. Non, moi, je pense que l'été va être un peu plus compliqué parce que au-delà des marchés qui sont effectivement très solides, d'une volatilité action qui est ridicule depuis le début de l'année, enfin même depuis presque un an aujourd'hui, une fois qu'on a passé la deuxième partie de l'an dernier, je pense que le sujet c'est qu'on a quand même des entreprises qui publient très très bien, qui sont très solides et qui à chaque fois font un peu mieux qu'attendu. Alors bon, on n'oublie pas le marketing en amont puisqu'on ajuste bien les attentes des analystes, mais quand même elles publient vraiment bien. Donc je me dis que cet été, ça, si jamais la Fed, encore une fois, plus ou moins 25 BP, c'est pas trop le sujet, mais si la Fed dit en juin, on n'est pas prêt de baisser les taux, je pense que le vrai sujet de la deuxième partie de l'année, ça va plus être, finalement, quelle est la capacité des entreprises, et je rejoins ce que tu disais sur le bilan, à bien payer ma dette. Donc je pense que ça va être de sortir des valeurs les plus endettées, de regarder un peu le détail de ce qu'on appelle le debt sur equity, donc le poids de la dette par rapport aux fonds propres, et de se dire que, quand même, prendre un peu ses bénéfices sur les marchés actions et principalement sortir des valeurs les plus endettées, je pense que ça serait pas mal pour cet été, histoire d'abaisser un peu son risque action en général, mais surtout au niveau des taux, puisque quoi qu'il arrive, les taux sont pas prêts de baisser et on est quand même dans un monde où il va falloir que les entreprises aient des bilans de plus en plus solides, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années où on savait pas trop quoi faire de l'argent, c'était l'inverse. Là aujourd'hui, on va revenir dans un monde un peu plus normal et je pense que la valeur du bilan va redevenir une vraie clé de sélection. Donc voilà, on prend ses bénéfices et on garde uniquement en portefeuille, si on est en titre vif, en direct, les entreprises les moins endettées possibles.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé ce matin sur le plateau de BFM Patrimoine. Mathieu Bailly pour Octo AM et Cyril Collet pour CPR AM.
Merci.
Dans un instant, un détour technique par les marchés, c'est Romain Dobré qui nous attend chez Bourse Direct. Et puis ensuite, on continue à vous donner un maximum de conseils et on répond à toutes vos questions. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Comme promis, pour entamer cette dernière demi-heure, vous en avez l'habitude, on file sur les marchés. C'est Romain Daubry que l'on retrouve depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain qui nous fait la gentillesse de suivre le marché ce matin. Marché qui reste pour le moment en baisse, Romain.
Oui, toujours un peu sans tendance. On a pas beaucoup de tendance, pas beaucoup de force sur les indices européens depuis mi-avril maintenant. Puis on a même connu un coup d'arrêt dans la hausse avec le large gap baissier qu'on avait ouvert le 24 mai dernier, notamment sur le DAX par exemple. Et ce gap, on n'a pas réussi à le combler d'ailleurs. Donc c'est un plafond de verre pour nous. Sur les indices américains qui sont plus forts en ce moment, on arrive aussi proche de cibles majeures sur le S&P 500. La grosse résistance 4273, on s'est arrêté dessus, on l'a débordé un petit peu et puis on a clôturé sur ce niveau pile précisément hier. Sur le Nasdaq, la cible c'est 14 715 points, on en est à 1% à peu près. Or ça, ce sont des très très gros niveaux puisque ce sont des résistances sous lesquelles on a accéléré à la baisse et sont à partir de la rupture de ces niveaux-là qu'on avait invalidé la tendance haussière à partir de 2022. Donc ce sont des figures de retournement qu'on avait construites pendant un an avant de passer sous ces niveaux. Donc ce sont des gros plafonds de verre. On peut parier effectivement qu'il y aura au moins une pause sur ces niveaux-là, même s'il n'y a pas de figure de retournement, pas de signe de faiblesse du tout. Et effectivement, ce que disait Mathieu était intéressant sur le VIX, sur la volatilité, donc sur le niveau de stress sur le S&P 500. On passe à des niveaux qui sont les plus bas de maintenant 2 ans. Et on peut même considérer, on en a parlé plusieurs fois ensemble, que cette fois-ci, on entre en complaisance. Alors, entrer en complaisance, ça ne veut pas dire alerte, mais on n'est plus en optimisme. On met un pied dans la zone de complaisance. Sur le VIX, moi, je l'ai fixé un peu arbitrairement entre 12,10 et 15,40. On est à 14,88. Ça veut dire qu'on entre dans une phase où les opérateurs sont beaucoup moins couverts, les portefeuilles moins protégés. On le voit sur le CAC 40, c'est plus presque une option d'achat pour une option de vente. Sur les indices américains, c'est moins de couverture, moins de protection dans les portefeuilles. Alors après la complaisance, il y a aussi l'euphorie. Donc on a encore le temps, mais on doit être effectivement un peu plus vigilant à l'abord de résistance majeure. Ceci dit, dans ce marché qui manque un peu de driver en Europe, on voit toujours pas mal d'activités sur les small et mid caps. Il y a de très beaux mouvements. On en a pas mal profité sur des valeurs comme Calray ou Carbios, dans des secteurs complètement différents, mais qui donnent des signes de force et d'intérêt. Donc il y a quand même des choses qui se passent sur les valeurs. On n'a pas encore une fois de pression baissière. Un tout petit peu la semaine dernière, elle a été invalidée. Donc pour l'instant, c'était un marché qui a l'air de vouloir consolider un petit peu, ce qui est relativement normal compte tenu du parcours et puis compte tenu de la période et du manque de driver avant au moins une dizaine de jours maintenant.
Merci beaucoup Romain Daubry, donc Bourse Direct qui nous accompagnait ce matin sur les aspects techniques qui sous-tendent le marché parisien. Le CAC 40 donc en baisse pour le moment, on perd 0,22%, 7184 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Et face à la hausse des taux, obtenir un crédit immobilier peut s'avérer très compliqué. Dans ce contexte, il peut exister des solutions, et notamment du côté de la famille. Bonjour Maître Barbara Thomas-David.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous des coulisses du patrimoine. Quels sont les moyens d'aider ses proches quand ils veulent acquérir de l'immobilier? Il y a quoi? Il y a la donation?
La première chose à laquelle on pense, c'est effectivement la donation. C'est le plus simple. C'est le plus simple, ça a un double intérêt. Ça a un intérêt civil, puisqu'on va anticiper sa succession. Et puis, ça a un intérêt fiscal, puisque vous savez qu'en matière de donation, vous avez des abattements que tout le monde commence à connaître. 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans, plus 31 865 euros si c'est une donation de somme d'argent. Donc, c'est ce qui peut finalement permettre le coup de pouce et l'acquisition du bien immobilier, ou c'est ce qui peut également permettre, là où le prêt ne passait pas, eh bien, d'avoir l'apport personnel suffisant pour pouvoir emprunter. Donc c'est vraiment un double aspect. Un aspect, j'entre dans le marché immobilier alors que j'en avais pas forcément les moyens. Donc je rentre dans ce marché qui est un marché haussier si on regarde avec le temps. Et puis ça permet également, encore une fois, l'anticipation successorale, avec évidemment le bémol de se dire, si je donne à un enfant, je ne donne pas à l'autre. Et au moment de la succession, on va remettre les compteurs à zéro. Et ne pas oublier que cette donation, si elle est employée dans un bien immobilier, eh bien elle suit le marché immobilier. Et si d'aventure votre bien immobilier a pris 20%, eh bien c'est 20% de plus que vous devez rapporter à la succession. Donc soit on fait une donation partage parce qu'on a les moyens de faire à plusieurs enfants, soit ça peut être un petit peu compliqué au moment où on fait les comptes.
Et on rappelle, parce que c'est toujours important de remettre l'ouvrage sur le métier, que si on a déjà fait des donations et que on n'avait pas l'équilibre et que là on a les moyens de refaire l'équilibre, on peut reprendre.
Bien sûr.
Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de donation partage il y a 10 ans et quelques qu'on peut pas faire une donation partage aujourd'hui. Hein.
Bien sûr, et on le repropose ça quand il y a par exemple 2 enfants et qu'un enfant a été gratifié il y a 10 ans, on peut dire. Au moment de la deuxième donation, on va tout rapporter dans une seule et même donation partage. C'est un peu la paix des familles puisqu'on partage définitivement les choses.
Ça, c'est la donation. Il y a aussi le prêt familial. Est-ce que c'est possible d'emprunter?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que ça, autant la donation, les gens y pensent, autant le prêt, souvent ils me disent mais c'est possible. Ben oui, c'est possible. C'est possible.
Le prêt, c'est pas forcément à la banque.
C'est pas forcément à la banque. Et puis, il y a une souplesse dans le prêt familial qu'il n'y a pas dans le prêt bancaire. Il y a 2 éléments de souplesse. Le premier, c'est le taux, parce que vous pouvez calquer le taux sur le taux actuel, mais vous pouvez mettre un taux peu important, voire stipuler un prêt à taux zéro. Mais prêt à taux zéro, on l'a vu en ce moment, c'est quasiment plus possible. Le prêt familial à taux zéro.
Il peut rester à taux zéro aujourd'hui.
Il peut rester à taux zéro. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez jouer sur le taux. Et puis, vous pouvez jouer sur les échéances. Alors, un différé d'échéance pendant 5 ans, ou carrément, moi, on propose des fois, pour les gens qui ne veulent pas faire de donation pour ne pas rompre l'équilibre, un prêt exigible au plus tard au moment du décès de celui qui donne.
Ça veut dire qu'on ne rembourse rien pendant...
Ça veut dire qu'on ne rembourse rien pendant toute la durée du crédit et au moment du décès, on fait les comptes et on prend moins dans la succession parce qu'on est débiteur et créancier, on prend moins à hauteur du crédit. C'est une solution qu'on propose souvent et qui est pas si connue que ça.
Il y a quand même un vrai formalisme, même si c'est plus simple entre guillemets qu'à la banque. Faut pas se dire on met ça sur un post-it et basta. Non, il y a quand même un vrai formalisme et une fiscalité, non?
Oui, vous prêchez une convaincue. Il faut faire. Moi, je conseille de faire un acte authentique de notaire parce que vous gardez la preuve de ce prêt qui sinon peut être volatile. Hein. Il y a de toute façon une obligation d'enregistrement quand il y a plus de 5 000 euros. Et puis, l'acte authentique, il a une force exécutoire, c'est-à-dire que si jamais les relations familiales se tendent, grâce à cet acte de notaire, vous allez pouvoir exiger le remboursement de la dette. Mmh. Chose qui est beaucoup plus difficile lorsque vous êtes en prêt sous sein privé. Oui. Alors attention, s'il y a des intérêts, les intérêts sont taxables dans le
papier. Bah oui, bien sûr.
Voilà.
Pour le parent qui consent le prêt, ça fait des revenus.
Oui, voilà.
Et ça passe pas à l'as. Hein, ça.
Voilà.
Vous remarquerez que souvent les revenus passent pas à l'as. Bercy est toujours là pour veiller au grain. Mais il doit avoir toutes les caractéristiques d'un vrai prêt et bien notamment sûr. Que les remboursements ne doivent pas être fictifs, sinon.
Donation
déguisée par la patrouille. Donc attention à tout ça. On peut envisager un démembrement de propriété d'une façon ou d'une autre là-dessus aussi.
Oui, on peut même corréler les choses, c'est-à-dire que vous pouvez dire je donne ou je prête à mon enfant et puis on va acheter usufruit d'une propriété. Alors ça c'est vraiment si on peut le faire, c'est super parce que les parents achètent l'usufruit du bien. Les enfants, enfin l'enfant, la nue propriété. Pour un parent qui a par exemple entre 60 et 70 ans, son usufruit, il vaut 40%. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous achetez un bien de 100 000 euros, l'enfant finance 60%, le parent usufruitier 40%, et au moment du décès du parent usufruitier, l'usufruit tombe, et ça veut dire que l'enfant 1, il a financé que 60% et 2, les 40% restants ne sont pas fiscalisés. Donc vraiment, ça, si c'est une possibilité qui est...
Mais du coup, le nu propriétaire, il doit payer un loyer, il doit...
Alors, soit il paye un loyer, soit l'usufruitier peut parfaitement prêter le bien au nu propriétaire.
Et ça, il n'y a pas d'incidence fiscale.
Il n'y a pas d'incidence fiscale, non. Il y a une possibilité véritable de faire ce démembrement qui peut être agile avec une donation ou un prêt en plus.
Alors, là, c'est qu'on est déjà disposé, entre guillemets, à acheter à plusieurs. Si on est disposé à acheter à plusieurs, on peut aussi se dire, tiens, on va acheter en indivision.
Alors, oui. Ça, c'est une question qu'on nous pose. Alors, attention à l'indivision. L'indivision sur le papier, c'est super. Maintenant, vous savez, le premier article du Code civil sur l'indivision, il dit que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Donc, c'est quelque chose de fragile, l'indivision. Si vous avez envie de sortir cette indivision, vous le pouvez. Si la personne qui veut rester dans l'indivision n'a pas les moyens de racheter votre quote-part, vous pouvez vous retrouver en indivision avec des gens qui sont étrangers à l'indivision. Et puis, il y a les vicissitudes de la vie. Imaginez un des indivisaires décède, vous allez vous retrouver avec ses héritiers en indivision. Peut-être pas forcément l'idéal. Et puis, il y a la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en matière de gestion et d'administration d'un bien indivis, il faut bien s'entendre. Donc, en fait, le maître mot en matière d'indivision, même si ça permet finalement d'acheter là où on ne pourrait pas, c'est le maître mot, c'est bien s'entendre. En fait.
Et si finalement on enlève on essaye d'éluder ce premier article en faisant une SCI?
Alors voilà, ça c'est évidemment le conseil qu'on propose, c'est-à-dire que dans la SCI, grâce au statut, vous allez créer des règles de gouvernance qui sont propres à votre situation, vous distinguez l'avoir et le pouvoir, et donc ces règles de gouvernance, ça va vous éviter toutes les problématiques liées au carcan d'une SCI, si vous voulez. L'idéal est évidemment de constituer une SCI, d'acheter en démembrement, et puis sur la partie que les enfants ne peuvent pas financer, faire soit un emprunt familial, soit une donation.
Eh bien voilà quelques pistes pour ce monde immobilier à travers le prisme familial. Merci beaucoup,
avec
Maître
plaisir.
Barbara Thomas-David, notaire à Paris, qui nous accompagne régulièrement sur ces coulisses du patrimoine. À très vite.
À très vite.
Le marché parisien, lui, est toujours en petite baisse pour le moment. On perd 0,21%, 7185 points. Ça s'est d'ailleurs un petit peu établi partout en Europe, cette baisse de 0,2%. Grosso modo, l'Eurostock 50 perd lui aussi 0,26%. L'Eurodoll est à 1,0696.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et elles sont deux ce matin pour répondre à toutes vos questions. Taline Melkonian, bonjour Taline.
Moi, c'est Valérie.
Me mets dans le bon sens. Bonjour Taline.
Bonjour Cédric.
Pour De Grove Peterkam et Valérie Montel, bonjour Valérie. Pour Lombard Audier, deux ingénieurs patrimoniales, pour répondre aux questions que vous nous envoyez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire au quotidien, BFM Patrimoine at bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts vous répondent. Vous êtes prêts, mesdames? Allez, on démarre avec vous, Valérie, et c'est Julie qui vous interroge. Elle est usufruitière de sa maison suite au décès de son époux et elle se demande si ses enfants peuvent l'obliger à vendre.
Alors c'est une très bonne question. Si Julie a opté pour l'usufruit dans le cadre de la succession de son époux, on peut penser que c'est parce qu'elle a souhaité continuer à vivre dans sa maison ou au moins garder cette maison et le cas échéant la louer pour avoir des revenus. Alors est-ce que les nus propriétaires, qui sont en général ses enfants, peuvent l'obliger à vendre si eux ils ont besoin d'argent? La réponse c'est que ils doivent avoir l'accord de Julie. L'usufruitier doit être d'accord, sinon la maison ne peut pas être vendue. Si vous voulez, le démembrement, l'usufruit nue propriété, c'est pas la même chose que l'indivision dont parlait tout à l'heure Barbara. Dans l'indivision, nul ne peut contraindre de demeurer dans l'indivision, alors que quand vous êtes dans une situation de démembrement, une vente ne peut se passer sans l'accord de l'un ou de l'autre. Ça veut dire que si Julie change d'avis et qu'elle veut vendre, elle doit aussi avoir l'accord.
C'est dans les deux sens.
Du nu propriétaire. Exactement, elle doit avoir l'accord des nus propriétaires et elle doit aussi se poser la question de savoir combien elle va retirer de la vente, parce que plus son âge avance et plus le prix qui va être partagé et qui lui reviendra sera faible. Par exemple, pour une personne qui a...
Ce qu'on appelle la valeur de l'usufruit.
Voilà, pour une personne qui a plus de 71 et moins de 80, par exemple, ça va être 30%. Et si la personne a entre 81 et 90, ça va être plus que 20%.
Ouais.
Voilà.
Donc, elle ne récupérerait que cette portion de
exactement.
La valeur du bien.
Exactement.
Bon, donc, ils ne peuvent pas la foutre dehors.
Voilà, exactement.
Et elle ne peut pas vendre sans leur accord.
Voilà,
exactement. En revanche, elle peut louer sans leur accord.
Tout à fait, exactement.
Voilà donc, Julie, votre réponse. Victor vous écrit, Taline, il a 75 ans et deux enfants et il a déjà épuisé tous les abattements et tranches en dessous de 45%, nous dit-il. Et son notaire lui indique qu'il y a un intérêt fiscal de continuer à donner, ce qui étonne beaucoup Victor et voudrait savoir ce qu'il en est.
Alors, Victor doit écouter son notaire. Donc
Toujours
écouter son notaire et ses conseillers. Donc, en effet, Victor peut se poser la question, parce qu'il s'est dit, j'ai déjà épuisé tous mes abattements, je suis déjà taxé à 45%, enfin mes enfants sont déjà taxés à 45%, si je continue à leur transmettre mon patrimoine. Donc, qu'est-ce que ça change si je décède dans 5 ans? Ça sera également taxé à 45%. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. La donation qu'il ferait éventuellement aujourd'hui serait également taxée à 45%. Mais il y a quand même un certain nombre de règles pour permettre, enfin, de choses à faire pour permettre d'économiser, on va dire, la facture fiscale. Déjà, lorsqu'on paye les 45% en matière de donation ou de succession, en matière de succession, c'est plus facile. Les 45%, ils sont calculés sur la base totale de l'actif transmis. Donc, si on prend environ un patrimoine d'un 5, on sait qu'il y a environ 500 000 qui va partir en droit. Si on donne de son vivant, on peut dire qu'on prend à sa charge, celui qui donne peut prendre à sa charge les droits de donation, ce qui fait qu'on économise l'impôt sur l'impôt. Donc si je raisonne sur la base du 1,5 million, on se dit je transmets 1 million par enfant, et bien là je me rends compte que les coûts supplémentaires sont moins élevés que s'ils avaient été calculés dans la succession. Donc première chose, le fait de donner, on est en effet facialement taxé au même taux, mais le fait de donner et de prendre à sa charge les droits de donation permet d'économiser l'impôt.
Et ça ne rentre pas, c'est pas un don supplémentaire.
Exactement, c'est parce que le fait de prendre à sa charge des droits de donation n'est pas considéré comme une donation supplémentaire. Donc l'économie des droits sur les droits. Ensuite, il y a autre chose que pourrait faire également Victor, c'est qu'il peut s'imaginer de transmettre la nue propriété des actifs, se conserver l'usufruit, ce qui lui permet également donc d'économiser la facture fiscale, d'avoir un coût moins élevé, parce que il prend à sa charge les droits de donation et en plus il ne paye pas sur la totalité de la base taxable, puisque selon le barème, il va être taxé uniquement, la donation va être taxée uniquement sur la nue propriété. Si réellement Victor ne souhaite pas donner de son vivant, il peut toujours s'orienter vers de l'assurance vie. Et elle est sur un autre support qui est donc l'assurance vie, là où il va placer ses capitaux, donc il en aura la libre disposition jusqu'à la fin de sa vie, mais il va rentrer dans une autre fiscalité qui ne sera pas celle de 45%, mais qui sera celle propre à l'assurance vie, qui permet de passer à 31,25 au pire.
Ouais, au-delà des 152 500 euros.
Exact, d'abattement par bénéficiaire.
D'abattement par bénéficiaire. Voilà, Victor, quelques clés pour obéir en fait à votre notaire qui vous dit qu'on peut continuer. On passe à la question que vous envoie Inès. Valérie, puis-je faire des donations à mon conjoint ?
Alors, tout à fait. On peut tout à fait faire des donations à son conjoint, soit des donations manuelles, de la main à la main, soit pour des donations plus importantes, on peut passer devant son notaire. Il faut savoir que les donations entre conjoints, en revanche, sont irrévocables. C'est-à-dire que si, ensuite, on divorce, on ne peut pas les remettre en cause.
Récupérer le blé que je t'ai donné.
Mais c'est pas tant pour ça que, finalement, on voit très peu de donations entre conjoints. C'est surtout pour des raisons fiscales. Parce que jusqu'à un certain montant, qui est de 80 724 euros, on ne paye pas de droits de donation. En revanche, au-delà, il y a des droits de donation et ces droits de donation, ils peuvent rapidement être élevés. Ils atteignent rapidement 20% jusqu'à 45% au taux marginal. Donc, c'est vraiment la fiscalité qui explique qu'en France, si on veut avantager son conjoint, on passe peu par des donations. Donc, comment on fait quand on veut avantager son conjoint en France ? Ben, on va plutôt passer par changer son régime matrimonial. C'est-à-dire que si on était dans un régime de séparation, eh bien on va passer dans un régime de communauté, ce qui va faire que les biens propres vont devenir communs. Puis on peut même aller plus loin et prévoir que ces biens communs sont totalement attribués au conjoint lors d'un décès. Donc ça, c'est une première solution et ça explique pourquoi il y a de nombreux changements de régimes matrimoniaux en France. Ensuite, les autres moyens pour avantager le conjoint, ça va plutôt être au décès. Puisque, contrairement aux donations entre conjoints, les successions entre conjoints sont exonérées.
Eh oui, c'est la loi TEPA.
Exactement. Donc, désigner son conjoint bénéficiaire d'une assurance vie, ou alors faire une donation au dernier vivant. Parce que donation au dernier vivant, on pourrait croire que c'est une donation, mais contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas une donation, mais c'est une disposition qui va prendre effet au décès de la personne et qui va permettre d'attribuer au conjoint une part plus importante dans la succession. Ou, s'agissant d'une famille recomposée, par exemple, d'attribuer de l'usufruit au conjoint. Et là, effectivement, le conjoint est exonéré.
Juste, vous nous avez parlé de changement du régime matrimonial, mais il y en a qui sont directement impactés, c'est les bambins. Les enfants, ils voient le truc leur passer sous le nez, non ?
Alors, il y a plusieurs degrés.
Ils doivent donner leur accord,
Alors, il y a plusieurs degrés dans le changement de régime matrimonial. Vous pouvez passer de la séparation à une communauté légale ou à une communauté universelle. Effectivement, les enfants sont impactés. Alors c'est surtout quand vous avez des enfants d'un premier lit qui peut, ouais, qu'il peut y avoir des soucis. Et effectivement, ils peuvent s'opposer au changement de régime matrimonial.
Donc on leur demande leur avis.
Exactement.
Donc attention, il faut bien s'entendre avec ses enfants. C'est peut-être le moment de leur glisser une petite donation
pour faire passer la pilule. Quand les enfants sont communs, ils sont simplement informés. Bon. Mais effectivement, il faut faire attention, surtout quand on a des enfants d'union précédente.
Question de Amir Taline. Je n'ai pas d'héritier, mais je veux gratifier mon filleul à mon décès. Quelles sont les meilleures façons de procéder?
Alors, gratifier un tiers coûte très cher fiscalement. C'est 60%. Que ce soit de son vivant, si on effectue des donations, ou à son décès par le biais d'une disposition testamentaire, la personne qui va recevoir va devoir s'acquitter de 60% et payer ses impôts. Donc il y a différentes façons de répondre à cette question d'Amir. La première chose, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses qu'on peut faire de son vivant. Je ne connais pas la fortune d'Amir, mais il y a ce qu'on appelle les présents d'usage. C'est-à-dire qu'on peut de son vivant, et ça s'appelle à n'importe quelle personne, que ce soit un tiers ou pas, on peut de son vivant, à l'occasion de certaines fêtes, que ce soit Noël, anniversaire, naissance d'un enfant,
ouais, diplôme,
faire un chèque et le transmettre à la personne de son choix. La condition est de ne pas s'appauvrir. Donc il faut que...
Mais parce qu'il n'y a pas de barème.
Non, malheureusement, il n'y a pas de barème. Ça va vraiment dépendre de la fortune de la personne qui donne. Et le principe, c'est qu'il ne faut pas que cette personne s'appauvrisse. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui a environ un patrimoine de 500 000 euros, on comprend bien que s'il achète une Ferrari pour l'anniversaire, les 18 ans de son fils, là, il va y avoir un sujet. Une personne qui aura un patrimoine de 8 millions, si à chaque fête, il fait un chèque de 20, 30 000 euros, il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est ce que Amir pourrait faire de son vivant. Ensuite, au moment de son décès, déjà, il faut le prévoir, hein, parce que le filleul n'est pas un héritier, donc il faut que...
Et on rappelle juste, sur les présents d'usage, il faut bien le mentionner.
Oui, il faut faire le petit mot qui vaut bien, mon chéri, machin,
et puis
à l'occasion.
Bambin le garde.
Tout à fait. C'est toujours justifié.
Éventuellement parce produire aux services fiscaux.
Exactement. Donc après, à son décès, donc bien sûr, déjà, il faut le prévoir, parce que Amir est probablement très proche de son filleul, mais juridiquement, ils n'ont aucun lien, donc il faut bien prévoir. Si Amir donc désigne son filleul en tant que bénéficiaire de sa succession, disons qu'il y a un patrimoine d'1 million d'euros, il y a 600 000 euros qui vont partir aux impôts. Donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Il y a deux solutions. Si le patrimoine d'Amir est intégralement financier, il peut toujours passer par le biais du contrat d'assurance vie. Parce qu'on rappelle que lorsque vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, vous êtes en dehors des barèmes de droit de succession. Donc ce n'est pas le barème de 60% qui s'applique. Pour le contrat d'assurance vie, c'est un barème unique qui s'applique quel que soit le bénéficiaire, quel que soit le lien de sang ou pas.
Il ne peut pas y avoir du tout de lien.
Exact. D'ailleurs. Vous avez donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Ensuite, vous avez une partie qui est taxée à 20% et au-delà, vous êtes à 31-25%. Donc ça, c'est une première solution pour Amir, c'est de tout mettre dans un contrat. Ouais. Il y a une autre solution qui est très intéressante également, c'est, imaginons que ce soit un bien immobilier ou autre qu'il ait dans son patrimoine, c'est de tout léguer à une association qui lui est chère. Donc il lègue à une fondation, une association. Il lègue donc son 1 million d'euros à cette association, à charge pour cette association de verser 400 000 euros au filleul d'Amir. Pourquoi j'ai pris l'exemple de 400 000 euros? Parce que 400 000 euros, c'est ce qu'aurait eu le filleul si on n'était pas passé par cette solution-là. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, la même idée que tout à l'heure, on économise les droits de donation sur les droits de donation, puisque là, la fondation va recevoir le 1 million d'euros. Elle sait qu'elle doit verser 400 000 euros à Amir, donc on calcule les 60% sur les 400 000 euros. On va dire que ça fait environ 250 000 euros. Et le solde, eh bien, ça sera pour la fondation.
D'accord. Voilà quelques idées, donc. Valérie Ludovic hérite d'une personne qui réside à l'étranger. Dois-je payer des droits de succession en France ?
Alors, très bonne question. Alors, ce qu'il faut que Ludovic sache, c'est que dès qu'il y a des implications internationales, les choses deviennent complexes et c'est important d'être bien conseillé. Parce qu'effectivement, quand on est héritier, qu'on est résident français, qu'on hérite d'une personne qui est résident dans un autre pays, la première chose à savoir, c'est qu'il va y avoir forcément des droits de succession, dans le pays étranger. Alors je dis forcément, mais ouais, pas
parce
forcément.
Parce qu'il y en a qui n'en ont pas ou peu.
Voilà, il y a des pays qui n'ont pas de droit de succession, souvent entre parents et enfants. Par exemple, le Portugal ou la Suisse, mais encore dans certains cantons. Première chose à savoir, il y a en principe des droits de succession dans le pays étranger. Il faut le vérifier. Et ensuite, il peut également y avoir des droits de succession en France, et ça sera le cas si la personne est résidente depuis 6 ans, a été résidente pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Ce qui veut dire que ça exclut les personnes, si vous voulez, qui sont soit des étrangers qui sont nouvellement installés, ou alors des Français qui se sont expatriés et qui sont revenus après un certain temps. Mais si on n'est pas dans cette configuration, donc on a été résident pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, on doit payer des droits de donation en France. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si à la fois on doit payer des droits de donation en France et si le pays étranger prélève également des droits de succession ? Eh bien, on a une double imposition. Et là, il faut regarder s'il existe une convention fiscale d'élimination des doubles impositions entre la France et le pays de résidence du défunt. Et là, la convention va dire si tel bien ou tel bien est imposable plutôt en France ou dans l'autre pays. Malheureusement, s'il n'y a pas de convention, il y aura potentiellement une double imposition.
D'où l'intérêt d'être accompagné.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu aux questions des auditeurs ce matin. Donc Valérie Montel pour l'ingénierie patrimoniale Lombard-Odier et Taline Melkonian pour l'ingénierie patrimoniale de Degroff Petercam. Dans un instant, 90 minutes business et c'est donc Sandra Gandouin qui prend le relais.
Bonjour
Sandra. Votre sommaire aujourd'hui.
On va revenir sur ce nouveau casque de réalité mixte présenté par Apple hier soir. Bien plus qu'un casque, hein, évidemment, c'est Frédéric Simotel qui va venir nous le dire. Dans un instant, on recevra Didier Lehenaf qui va nous parler des Eco Games Sport Planète qui ont lieu en ce moment toute la semaine en région parisienne. Et puis, on parlera du sujet explosif des Airbnb. Ce sera dans notre débat 12h45 et le maire de Deauville sera avec nous d'ailleurs pour en discuter.
À suivre donc dans une poignée de minutes, Sandra Gandouin, 90 minutes business. Nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Le CAC est en baisse de 0,25% ce matin.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.